Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Pour cette nouvelle émission, je reçois Isabelle Sommier, professeure de sociologie à Paris 1 et directrice d'un ouvrage collectif sur les violences politiques en France. Ouvrage qui propose une somme de données chiffrées sur ces violences, les analyses bien sûr, et dont nous avons souhaité évoquer les résultats dans un climat politique tendu, avec notamment récemment l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris contre deux youtubeurs d'extrême droite qui simulaient l'exécution d'un militant de gauche et expliquer comment se procurer des armes. Bonjour Isabelle Sommier. Dans l'introduction du livre, vous évoquez les jeux partisans à propos de l'insécurité. On enregistre cette émission en pleine campagne des régionales, alors qui passionne peut-être pas les foules, mais en tout cas beaucoup de candidats de droite, d'extrême droite martèlent cet enjeu de la sécurité. Et il se trouve que peut-être qu'on peut commencer par ça, que vous manipulez donc une masse de données. Hein, on va y revenir. Et que vous préférez insister non pas sur une explosion de violence à laquelle il faudrait absolument trouver des solutions urgemment. Vous êtes plutôt de ceux qui disent qu'il y a une relative quiétude même presque de la société. En tout cas, une stabilité des phénomènes de violence.
Oui, tout à fait. Alors, la question des chiffres, elle est centrale dans les démocraties, et de plus en plus, hélas. Et surtout, la question de l'insécurité, des chiffres de la délinquance, etc. Alors, pour la délinquance, on a des chiffres, alors on peut les discuter. Pour les questions de violence politique, on n'en avait pas. Donc, on a décidé, effectivement, de tester cette hypothèse que... à longueur, en quelque sorte, de plateau télé, de discours politique, on serait rentré dans une ère de développement, d'accroissement de la violence en politique. Et en fait, cette base de données qui regroupe 6000 épisodes de violence ne renvoie pas du tout cette image. Si l'on enlève les attentats djihadistes avec l'extrême létalité, mais c'est tout à fait
particulier. Justement, peut-être que c'est ça qu'il faut préciser, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont un peu sursauter, qui vont dire il y a quand même eu ces attentats-là avec un nombre de morts important, parce qu'en fait, vous montrez bien que le nombre d'épisodes de violence a plutôt tendance à être stable. En revanche, on a plus de nombre de morts ces dernières années, mais justement, ils sont concentrés sur ces attentats djihadistes, ce qui explique aussi l'émotion légitime qu'il y a autour de ces événements.
Bien entendu. Alors, sans donner trop de chiffres, en nombre d'épisodes, les attentats djihadistes, c'est moins de 7% de l'ensemble des épisodes recensés. En termes de victimes, c'est presque 70%. Ouais. Donc, vous voyez là vraiment la spécificité ces atteintes aux personnes, qui est caractéristique du terrorisme religieux, avec le recours à des meurtres de masse.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'évidemment, il y a d'autres groupes religieux, que ce soit chrétiens, juifs, qui utilisent la violence politique, mais il n'y a pas cette létalité-là par rapport à des djihadistes.
Oui, absolument. Parmi l'ensemble de la famille, entre guillemets, des confessionnels, c'est 291 morts, mais 289 du fait des islamistes. Donc les catholiques intégristes, c'était clairement des atteintes au bien et de l'obstruction contre, par exemple, pour empêcher un spectacle considéré comme blasphématoire. Pour ce qui est des radicaux juifs, c'est pour beaucoup des affrontements et des agressions, mais à l'intérieur de leur propre communauté, contre des juifs considérés à tort ou à raison comme antisionistes.
Alors, on va peut-être rentrer un peu, c'est l'originalité du livre, et c'est l'intérêt de cette conversation, on va rentrer peut-être un peu plus dans la méthodologie, puisque vous avez donc une base de données de 6000 épisodes de violences collectives, vous le citez. Comment est-ce qu'on peut connaître, tout simplement, en fait, l'existence de ces épisodes, et quels critères on utilise pour parler de violences politiques? Parce que les gens peuvent se demander, mais les chercheurs, ils mettent des étiquettes de violences politiques, mais ils utilisent quoi comme critères?
Alors, plusieurs questions là. Je vais commencer par la dernière. C'est quoi les violences politiques? Il y a différents types de définitions. Nous, on a pris une définition qui est assez classique d'un chercheur états-unien, Nieberg, qui combine les trois critères. On peut dire qu'une violence, elle est politique parce que sa cible est politique. Typiquement, on va agresser le chef de l'État. Parce qu'on a une intentionnalité politique pour fomenter un coup d'État, par exemple, ou parce que la violence exerce des effets politiques. Voilà. Et c'est intéressant, cette définition, dans la mesure où elle montre en fait que le devenir d'une violence ne se joue pas sur pas toujours sur la qualité de l'auteur, la qualité de la victime ou l'acte matériel en tant que tel, mais aussi dans ce qu'il va donner.
Ouais, sur ce que la société en fait.
Ce que la société en fait, est-ce qu'il va être constitué en danger ou pas. Donc ça, c'est pour la définition. Pour ce qui est de la méthode, évidemment, ça a été un peu difficile, on va dire. Alors, d'abord, on voulait, nous, justement, contre ces propos à la fois impressionnistes et alarmistes, poser, avoir un regard très, très clinique, d'une certaine manière. D'où le choix d'une définition de la violence par un critère physique. Déjà, la violence, je ne dis pas l'existence de violence symbolique, etc. Mais nous, on s'est attaché à la violence physique et violence politique au sens où je vous le disais, sur une période longue, parce qu'on ne peut pas évaluer l'évolution d'un phénomène sur 10 ans, etc. Donc là, sur une trentaine d'années, de 86 à nos jours. Et puis vraiment, avec cette approche clinique, c'est-à-dire qu'on classe.
Oui, alors peut-être on peut revenir là-dessus. Vous avez différentes familles, là, c'est pareil. Comment vous décidez les familles et qui on a parlé, vous avez évoqué tout à l'heure les confessionnels quand on parlait des groupes religieux, vous les distinguez de groupes idéologiques mais aussi de groupes professionnels, enfin voilà, quel est le nuancier que vous apportez?
Alors on a distingué 5 familles de mouvements, comme on les appelle en sociologie, des mouvements sociaux, qui est mon sous-champ de rattachement, si je puis dire. Très classiquement les idéologiques, qui peuvent être de gauche comme de droite. Les indépendantistes, c'est d'abord très largement les Corses, mais également les Basques et les Bretons. Les confessionnels, donc des 3 religions monothéistes. Les violences dans le cadre des conflits du travail, où là se pose la question, est-ce que c'est politique ou est-ce que ça ne l'est pas? Eh bien, ça l'est si c'est érigé comme phénomène qui doit être pris en charge, en quelque sorte fait débat dans le débat politique, ou doit être pris en charge par les pouvoirs publics. Exemple, les séquestrations qui ont pu être commises de personnel d'encadrement l'après-crise des subprimes. Il y en a plusieurs, donc ça va être l'objet d'un débat. Et puis la dernière famille, c'est la famille qu'on a appelée au départ les sociétaux, pour renvoyer en fait à tous les conflits hors travail, qui renvoie, pour celles et ceux qui connaissent, à ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux des années 70. Et en fait, quand on a vu, on a été surpris en fait, parce que quand on a commencé à fouiller dans cette famille, si je puis dire, je vais expliquer ensuite comment, eh bien on a trouvé 2 sous-ensembles, là aussi très différents, comme pour les idéologiques, de gauche et de droite, c'est quand même des modalités d'action très différentes. Les écologistes radicaux, dans lesquels on a mis l'antinucléaire, les anti-OGM également.
Parler des animalistes aussi.
Et les animalistes. Les animalistes, ils arrivent en fin de période, c'est-à-dire dans notre siècle, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. Mais c'est certainement la sous-famille qui a la dynamique la plus marquante et qui croît considérablement et qui a le plus de succès compte tenu du regard que notre société a changé sur la condition animale. Alors concrètement, on se dit qu'on va s'attacher donc à l'ensemble des modes opératoires de la violence, pas au spectre constitué par ce que certains appellent le terrorisme, c'est-à-dire des violences indiscriminées, des violences aveugles, mais également des faits d'atteinte aux personnes qui ne donnent pas lieu, heureusement, à victimes, des affrontements, des agressions, et puis des atteintes aux biens, comme des destructions, des dégradations, etc. Et puis là, là, c'est un travail véritablement de fourmi. Ça prend des années, puisqu'il faut aller chercher les informations dans la mesure où nous n'avons eu aucune aide des services de l'État, ni de l'intérieur, ni de la justice, etc. Aucune information, alors qu'une partie des informations, elle est disponible. Ouais. D'ailleurs, quelquefois, les journalistes ont plus d'informations que nous, les chercheurs. Ça pose un véritable problème. Donc, les sources sont constituées d'abord d'archives personnelles, parce qu'on est un certain nombre, on est une douzaine de personnes dans cette équipe. Et pour un certain nombre d'entre nous, ça fait quelques décennies qu'on travaille sur une famille en particulier. Donc, on a eu le temps de constituer des archives privées. C'est à peu près un tiers du corpus, enfin des sources du corpus. Des médias, les médias marchands, mais aussi les médias militants, à condition évidemment que les faits soient recoupés. Hein, c'est pas parce qu'on entend une dépêche que bon. Et là, c'est à peu près la moitié, voilà. Hein. Et puis très rarement, comme je vous le disais, très très rarement, quelques archives des renseignements généraux, mais sur la période la plus ancienne, hein, puisque sur la fin de l'enquête, Nicolas Lebourg a enfin réussi à faire déclassifier quelques dossiers concernant l'extrême droite.
Mmh. Alors vous citez Nicolas Lebourg, c'est un des auteurs, et en l'occurrence un de vos co-auteurs, oui. Sur un chapitre donc, qui concerne les violences idéologiques hein, de gauche et de droite. Et là-dessus, vous identifiez une évolution assez saisissante dans ces 5 dernières années, avec une décrue, dites-vous, des violences imputables aux groupes de droite, et plutôt une crue des violences imputables à des groupes de gauche, avec chacun des causes quand même très très très, très distinctes, ouais, très différentes.
Oui, alors je vais un petit peu nuancer, hein, ouais, parce que si on voit, si on regarde donc la trentaine d'années, hein, donc de 86 à aujourd'hui, le changement, il est effectivement, il est net, c'est-à-dire qu'en début de période, c'est sur le spectre idéologique, hein, c'est vraiment l'extrême droite qui l'emporte, si je puis dire. Alors que sur la période la plus récente, c'est effectivement l'extrême gauche, dans des modalités différentes, effectivement, puisque les uns, l'extrême droite, très clairement, ce sont des agressions hein, qu'ils privilégient hein, pour, là aussi,
des motifs
retenir,
identitaires, hein, vous le dites.
Pour retenir un seul chiffre, 70% des faits d'agression de toute la base, hein, de toute la base, ont été commises par des groupes d'extrême droite. Et ça, ça a été véritablement une découverte de cette base. Alors aujourd'hui, on parle enfin de l'extrême droite, hein, mais il y a, quand on a commencé, on ne parlait que du djihadisme, etc. On voit là que c'est une violence qui est passée sous les radars. Pourquoi ? Ouais. Bah parce qu'en fait, d'une part, ces agressions, elles courent tout au long de la période. Elles ont deux motifs, à 70% altérophobes. Quelqu'un jugé, basané, etc. Hein, alors que les violences antisémites qui étaient très fortes dans les années 80 sont vraiment maintenant minimes du côté de ce spectre politique. Hein, et puis à 30%, c'est de la vengeance qui les anime hein, contre des militants antifascistes, contre des militants antiracistes, etc.
Ouais, je fais une pause un peu sur cette question de la droite. Alors extrême droite, ultra droite, hein, il y a plusieurs termes en circulation. Je ne sais pas quelle est votre religion là-dessus. Vous utilisez un peu ultra droite dans le livre, mais en prenant des précautions. Mais en l'occurrence, on a passé un article dans Mediapart, hein, Marine Turquie et Mathieu Suc, qui ont révélé un rapport du parquet général de Paris qui identifie hein, qu'il y avait des groupes d'ultra-droite, donc, dans leur formulation, de plus en plus organisés, obsédés par la guerre civile interraciale. Est-ce que cette dynamique-là, cette inquiétude-là, identifiée par les pouvoirs publics, est-ce que vous avez pu le repérer dans vos bases de données ?
Oui et non. Oui et non. Si la gauche apparaît champion, si je puis dire, depuis quelques années, c'est parce qu'elle est très visible dans les affrontements hein, et dans la dynamique émeutière que connaissent par exemple les manifestations. S'agissant de l'extrême droite, très clairement, depuis 2015, il y a une partie enfin, des activistes de ce pôle de droite hein, qui est convaincue que une nouvelle guerre est déclarée, a été déclarée à l'échelle internationale, transnationale plutôt, par les islamistes, ou que se rejoue la fin de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, un des groupes qui a été démantelé et qui préparait des attentats en 2017 s'appelait OAS. Donc, vous voyez, alors nous, on le repère pas en tant que tel.
Ouais,
parce
qui
que,
était déjà l'armée secrète hein, pendant la guerre d'Algérie voilà. Qui faisait des attentats.
Donc, ça, nous, on le repère pas parce que nous, on repère des faits qui ont eu lieu. Ces 6 projets d'attentats qui ont été de l'extrême droite hein, ont été interrompus juste avant de passer à l'action hein, par les services de renseignement. Hein, donc ils ne figurent pas dans la base parce que par définition ils ne sont pas passés à l'acte. Hein. Mais il y a vraiment cette idée hein, que il faut organiser la résistance, hein, d'où les accointances avec le survivalisme par exemple. Hein, ce que l'on voit, nous, très nettement dans la base, hein, c'est l'importance de ces agressions hein, et leur létalité. Hein, si je peux me permettre, hein, je disais tout à l'heure, 70%, presque 70% des victimes sont dues aux djihadistes. Mais c'est tellement énorme que ça écrase, cette statistique, elle écrase. Donc si on retire en fait les djihadistes, si je puis me permettre, enfin les morts provoquées par les attentats djihadistes, qui sont tout à fait particuliers, hein, et qu'on en reste aux indépendantistes Et au pôle idéologique, hein, parce que fort heureusement, il n'y a pas de victimes dans les conflits du travail ou chez les animalistes, etc. Hein, là, on a un regard, le regard est complètement différent. 58% des victimes tombent des mains des indépendantistes, Corse en particulier, hein, au premier chef, mais comme pour les juifs radicaux, c'est souvent des règlements de compte internes. 40%, presque 40%, c'est l'extrême droite. Presque 40%. Et la létalité de gauche, c'est 4%. Et c'est exclusivement, ou quasiment exclusivement, Action directe qui apparaît,
qui est ancien.
Hein.
Alors du coup, je reviens sur ce qu'on se disait. Vous me disiez l'extrême droite, effectivement, responsable, enfin, utilise surtout l'agression en termes de violence politique. L'extrême gauche, elle utilise quoi comme moyen privilégié, si j'ose dire?
Alors l'extrême gauche, ce sont les affrontements, manifestations, hein, le plus souvent, hein, ou entre militants d'extrême droite et militants d'extrême gauche. Hein, et puis surtout les dégradations et les destructions. Voilà. Alors, les cibles privilégiées dépendent des sous-familles. Les autonomes ciblent à peu près, de façon à peu près équivalente, hein, si on reprend la distinction althusserienne des appareils idéologiques d'État, etc., etc. Les autonomes, c'est les appareils répressifs, hein, les commissariats, etc. Les appareils éventuellement administratifs, hein, une préfecture, ce genre de choses. Alors les anarchistes, c'est différent, hein, parce que ils s'attaquent plutôt par des destructions ou des dégradations aux lieux de culte, enfin aux églises, alors que les autres lieux de culte qui sont visés, hein, qui sont les mosquées, ça, ce sont les identitaires.
Vous parlez des autonomes, ça c'est un point sur lequel on peut peut-être revenir en expliquant la spécificité de cette mouvance. Vous dites que, si je reprends encore une fois les années les plus récentes, vous observez un déclin des vieilles organisations structurées d'extrême gauche dans ces faits de violence politique et une augmentation de cette mouvance autonome. Voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces termes, c'est quoi la différence entre les deux?
Alors, dans les années 68, hein, 60-70, hein, on ne parlait pas de radicalité, hein, on parlait d'extrémisme politique. Et à ce moment-là, hein, ceux qui inquiétaient, hein, et ceux qui étaient disponibles, disposés à l'action physique, hein, dans les affrontements ou autres, hein, c'est l'extrême-gauche. Alors, c'est quoi l'extrême-gauche, hein? C'est toutes les petites formations à la gauche du PC, mais qui s'inscrivaient dans une ligne marxiste-léniniste, hein, qui reprochait au PC d'avoir abdiqué sa vocation révolutionnaire et qui entendait revivifier cette veine révolutionnaire par l'action. Alors il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes, etc. À partir de la seconde moitié des années 70, soit ces groupes ont disparu, la plupart des Mao, par exemple, des organisations maoïstes, soit, par exemple, pour la LCR, l'ancêtre du NPA, hein, ils abandonnent l'action violente, hein, pour une participation politique conventionnelle, hein, l'action, voilà. Donc ça, c'est terminé, hein, c'est terminé. Aujourd'hui, l'extrémisme, on parle maintenant de radicalité, hein, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais enfin bon, est considéré par les services de renseignement comme relevant de l'ultra-gauche. Alors, c'est un terme que je n'aime pas, c'est un terme que la plupart de
on
ceux
l'avait
qui
entendu
sont...
au moment de l'affaire de Tarnac, hein, qui a voilà. été un peu le fiasco quand même.
Ceux qui sont désignés comme ultra-gauche, en général, n'acceptent pas non plus cette étiquette. Bon, on va dire que l'ultra-gauche, hein, c'est à gauche de l'extrême-gauche, et surtout que l'affiliation, elle est tout à fait différente, hein, puisque les matrices idéologiques, hein, de cette mouvance, hein, qui est très... enfin. Il faut distinguer des sous-familles, là aussi. Hein. C'est à la fois le communisme de gauche, hein, par exemple de Rosa Luxembourg, là on revient à une matrice très ancienne. Hein. C'est l'influence de groupes intellectuels comme l'Internationale situationniste dans les années 60. Hein. Et puis, c'est l'importation du mouvement autonome italien. Qui, pour aller vite, on va dire, né dans les années 70 en Italie, hein, avec l'idée qu'il faut non pas envisager des lendemains qui chantent, hein, construire un parti et penser un processus révolutionnaire de type insurrectionnel, mais le communisme ici et maintenant, dans la réappropriation contre le vol capitaliste, selon leurs termes, hein, c'est-à-dire, par exemple, le vol, les braquages, etc. Hein, voilà, c'est ça, cette matrice.
Alors, si je reste encore une fois sur les dernières années, elle est vraiment là les années plus récentes, hein, 2016-2020, vous consacrez le dernier chapitre du livre aux mobilisations sociales, en particulier aux gilets jaunes qui ont marqué ces années, à la répression aussi qui s'est abattue sur ces mobilisations. Vous écrivez, c'est tout un pays qui semble s'embraser sous le regard médusé des journalistes, des politiques et d'une partie de la population. Alors, on a déjà relativisé l'idée d'une flambée des violences, mais à quel point ce regard médusé, il est justifié? Si vous quittez le terrain du sensationnalisme pour regarder les choses plus froidement, plus scientifiquement, vous discutez la thèse d'un nouveau cycle de mobilisation. Est-ce que les gilets jaunes, la loi travail, etc., est-ce que ça pointe vers un nouveau cycle de mobilisation? J'ai l'impression que votre réponse est prudente, nuancée, mais qu'est-ce qu'il vous fait dire qu'il y a une part d'inédit dans ce qu'on vit?
Bah, écoutez, le regard médusé, c'est pas sur ces quatre années. Ouais. C'était vraiment sur tous les samedis de novembre et de décembre 2018. C'est vrai qu'on a tous été extrêmement surpris, scotchés, si je puis dire, hein, pas simplement parce qu'on voyait donc ad nauseam des images de violence, mais personne n'avait prévu, bon, c'est pas notre rôle, vous me direz, hein, ce mouvement inouï qu'a été les gilets jaunes. Alors pourquoi il a été inouï ce mouvement, il nous a tous interpellés, hein, au-delà des images de violence. D'une part parce que pour une fois, ce sont des catégories sociales, populaires, moyennes, inférieures qui se mobilisent, alors que depuis des décennies, hein, c'est toujours des classes moyennes supérieures à fort capital scolaire. Hein. Donc ça déjà, ça a été tout à fait notable, remarquable. Hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle et l'extrême gauche et l'extrême droite ont essayé de préempter, en quelque sorte, après un moment d'attentisme, dire que c'est quoi ce mouvement, hein. Ils y sont allés les uns et les autres pour essayer d'influencer dans le sens qui était le leur. Deuxième raison, c'est un mouvement qui vient sans organisation, en refusant les organisations. Et au départ, on se dit, mais ça ne va pas tenir, c'est pas possible, un mouvement sans organisation, ça s'est jamais vu, enfin pas sur une longue période. Et pendant des mois, des semaines et ensuite des mois, ils vont tenir. Donc là aussi, ça a déjoué en quelque sorte tous les attendus de nos disciplines. Ça part, troisième élément, ça part sur, ça semble, une révolte antifiscale, hein. Et se produit un processus de politisation, alors pas tellement dans les manifestations, évidemment, plutôt sur les ronds-points, hein, qui fait qu'il va y avoir une montée en généralité et qu'ils vont réussir à nouer deux enjeux qui sont quand même des enjeux fondamentaux de nos sociétés, hein, l'enjeu démocratique, la réappropriation démocratique, hein, et puis l'enjeu des inégalités sociales, la nouvelle question sociale. Hein. Alors si vous ajoutez ensuite à cela, effectivement, ces images tous les samedis et la répression là aussi inouïe dont ils ont fait l'objet, oui, on a tous été médusés.
Je prolonge ma question avec une autre interrogation que j'avais, parce que vous pointez aussi dans le livre, et vous venez de le faire là à propos des Gilets jaunes, le fait que les organisations structurées sont de moins en moins présentes, quoi, dans ces faits de violence politique, qu'on a affaire à des groupes plus informels. Et justement, quels effets ça a sur la capacité de l'État à réguler, voire à contenir cette violence?
Ça a indéniablement de très gros effets. Sur la dynamique des manifestations, c'est évident. Hein. La manifestation, historiquement, elle ne s'est dégagée de sa forme émeute que très progressivement, à partir du début du XXe siècle, de deux façons, par l'organisation des cortèges, hein, et la mise en place d'un service d'ordre. Hein. Et c'est comme ça, c'est à ces conditions que ces manifestations se sont pacifiées, que la préfecture a accepté le principe, le ministère a accepté le principe des manifestations. Hein, et là, depuis plusieurs années, on observe un phénomène inverse, hein, puisque ces organisations sont totalement anémiées. Hein, c'est 11% de la population qui est syndiquée, par exemple, aujourd'hui. Hein. Ils ne sont plus capables d'aligner des services d'ordre, je dirais, dignes de ce nom. Hein. On voit le service d'ordre de la CGT, il est pas très performant aujourd'hui. Hein. Il est vieillissant. Il est pas. Il a perdu le savoir-faire qui était le sien il y a quelques décennies. Hein. Comme ces organisations sont très faibles, elles perdent dans leur rapport de force qu'elles doivent engager pour négocier le parcours, etc., etc. Hein. Donc ça a un effet tout à fait considérable qui favorise ce retour à la forme émeutière d'origine de la manifestation. Et puis ça a un autre effet, alors en dehors, hors manifestation, hein, qui est faute d'organisation structurée qui encadre le mécontentement, qui prend en charge les griefs, hein, qui sont multiples à juste titre, hein, eh bien on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un état de confusion idéologique étonnant, hein, et tout à fait inquiétant, dont on a eu quelques épisodes dans les semaines et les jours derniers.
Il y a un autre terme qui est présent dans l'ouvrage, le terme de radicalisation. On l'a beaucoup entendu à propos des violences islamistes, pour le coup. Ça a parfois été appliqué à la dynamique émeutière, hein, dont on vient de parler. On parlait du choix des mots, hein, tout à l'heure. Est-ce que ce terme de radicalisation, est-ce qu'il ne risque pas d'être dévoyé et un peu de pathologiser en fait, des engagements, des croyances idéologiques ? Un peu comme si c'était quelque chose dont il faudrait guérir, quoi, les gens.
Très certainement. Alors, en fait, le terme de radicalisation s'est imposé comme catégorie d'action publique, hein, depuis 2015 en France. On a été un peu tardif. Mais avant cela, ça a d'abord été un très grand tournant épistémologique, et dans les études sur le terrorisme et en sociologie des mouvements sociaux, où on parlait de processus de radicalisation. Pourquoi ? Ben justement pour dépathologiser ce type d'engagement en disant, en fait, c'est pas la question du pourquoi qui est intéressante. Pourquoi les gens rejoignent une organisation extrémiste, voilà. C'est comment ils y arrivent. Hein. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence dans l'entrée dans le mouvement, mais que les différences s'acquièrent en quelque sorte dans le fait d'être engagé dans un groupe, hein, où il y a une dimension tout à fait particulière, plus affective, etc., etc. Bon, bref. On prend des distances effectivement avec ce terme. D'ailleurs, on l'utilise pas, hein, parce que aujourd'hui, quand on pense radicalisation, on pense à cette catégorie d'action publique. Et il y a un très gros problème en France, à l'inverse des pays anglo-saxons, c'est que en France, il y a une tendance à confondre la radicalisation cognitive, c'est-à-dire l'adhésion à une idéologie qui est une idéologie avec une dimension de rupture, voire révolutionnaire, et la radicalisation comportementale, hein, qui conduirait
à un passage à
l'acte. Et ça, c'est très grave, parce qu'effectivement, quand on confond les deux, eh bien, on peut mettre l'opprobre sur un style de vie, sur une opinion qui ne pose pas de problème dès lors qu'elle ne se traduit pas par un passage à l'acte violent. En revanche, on utilise le terme de radicalité et de montée en radicalité. C'est l'hypothèse donc d'une montée en radicalité depuis 2016. Pourquoi ? Et ça, alors, la radicalité, c'est un concept qui est un concept relationnel. C'est-à-dire que c'est une co-construction entre le groupe désigné ainsi et qui quelquefois l'assume. Hein, aujourd'hui, se dire radical est très très bien vu, hein, globalement. Et les pouvoirs publics qui désignent l'autre comme étant radical. Hein. Donc la radicalité, c'est quoi ? C'est en ce sens que je parle de co-construction. Hein. La radicalité, c'est quoi ? Hein ? Eh bien, c'est la transgression d'une norme. Donc, c'est une déviance politique, hein, une transgression d'une norme, hein, mais qui est perçue comme subversive par les pouvoirs publics, ce que n'est pas, par exemple, le délinquant. Le délinquant, il transgresse une norme, il va effectivement aller voler, ça ne se fait pas. Bon. Mais il n'est pas perçu comme transgressif, parce que le moyen qu'il utilise, c'est pas bien, c'est une transgression, mais l'objectif qu'il a, c'est de s'enrichir, et ça ne pose pas de problème. C'est pas perçu comme transgressif.
Ouais. Oui, c'est pas ça qui perturbe l'ordre social, on va dire.
Et donc, j'en reviens donc à l'intérêt de cette définition de la violence, parce que qu'est-ce qui va se jouer, hein ? Est-ce que les pouvoirs publics vont considérer qu'on a affaire à une violence transgressive, subversive ? Et là, ça va être, typifié violence politique, etc., radicalisation, ou est-ce à considérer que bon, c'est un pauvre type ou c'est quelqu'un qui est malade psychiquement et donc on ne va pas le qualifier ni de terroriste ni de radical, on va l'envoyer en HP.
Donc un dernier mot quand même sur le lien justement violence politique plus général. On présente souvent la politique quand on essaie de la définir un peu simplement, toujours compliqué, mais la politique c'est ce qui doit canaliser justement le conflit dans des formes institutionnelles. On dit voilà, entre l'ordre total et le chaos, il y a la politique. Ça semble exclure la violence. Or, vous, ce que vous nous dites, là, c'est que les violences politiques, ça existe. Que la violence, elle peut être, si on regarde les choses froidement, sans jugement moral, ça peut être un moyen de changer les choses politiquement. Donc, comment on situe la violence par rapport à l'action politique ?
La violence est une modalité d'action politique, non conventionnelle. La violence peut être efficace, à certaines conditions. À la condition qu'elle n'aille pas au-delà de l'acceptable.
L'acceptable par qui ? Par la masse des gens ?
Oui, par la société. Les meurtres de masse aujourd'hui, ouais. Ne sont pas pas tolérés. Je pense que c'est tant mieux. C'est la raison pour laquelle il y a quand même un rejet massif des attentats aveugles. Mais sinon, elle peut être un moyen pour faire avancer une cause tout à fait clairement. Quelques exemples. La violence des indépendantistes, qui a été une violence très codifiée, ils placent des bombes la nuit pour pas faire de victimes collatérales, etc. Ça a été un instrument de pression et de négociation souterraine avec l'État, ça ne fait pas de doute. Arracher des plans d'OGM, c'est une autre forme de violence, atteinte à la propriété, qu'on peut discuter, voire s'en prendre à un élevage pour les animalistes, on peut dire que c'est mal. Mais dans les faits, ça a permis de rendre visible une cause, de mettre sur l'agenda politique un problème qui auparavant n'était pas perçu comme un problème politique. Et aujourd'hui, il y a énormément de lois à l'échelle française,
sur le bien-être comme
européenne, etc. Donc, il faut se déprendre. Alors, c'est toujours très compliqué pour. C'est le point de vue du sociologue. Il ne faut pas rire, il ne faut pas détester, il faut juste comprendre. Et comprendre, ce n'est pas excuser.
On terminera là-dessus, cette parole et cette défense de la sociologie. Merci Isabelle Sommier. Donc je rappelle Violence politique, qui est disponible, on le voit s'afficher sur l'écran. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien et je vous donne rendez-vous sur Mediapart.fr pour tous les autres grands entretiens du studio. Merci.